Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, à l'écoute de Radio Diwa sur le 107.5 FM et sur internet le www.rdwa.fr. C'est l'interview du jour, je reçois Brigitte Rousselet, candidate UPR à la 3e circonscription de la Drôme aux élections législatives de 2017.
Bonjour.
Alors comme je viens de résumer rapidement quel était l'objet de cette interview, mais enfin on va creuser quand même au fur et à mesure et on va par exemple faire part des propositions qui sont faites concrètement par votre candidature pour ces élections législatives.
Tout à fait.
Alors, vous l'avez dit, on peut peut-être revenir légèrement avant d'être dans des propositions concrètes sur votre parcours. Vous êtes encarté UPR depuis peu de temps, maire du village d'Establet.
Dans le Haut-Diwa.
Dans le Haut-Diwa. Et du coup, un parcours un peu particulier, si je dois être franche.
Ah, tout à fait, tout à fait. C'était même pas prévu, j'allais dire. Je n'y ai même pas pensé que je puisse être un jour candidate, quel que soit l'encartage, à une candidature à la députation. Absolument pas. Je n'avais aucune velléité de pouvoir de quelque ordre que ce soit. Et j'allais dire, c'est arrivé. Bon, je ne crois pas au hasard, bien sûr, mais. Je suis encartée depuis le 27 janvier, donc je suis une candidate, j'allais dire privilégiée, parce que je suis maire, et c'est sûr que, quelque part, l'impact auprès du public a peut-être, je dis bien, je n'en suis pas certaine, hein, mais a peut-être un impact beaucoup plus important que quelqu'un qui est inconnu et qui se présente pour la première fois, mais j'allais dire, mon parcours est le parcours de monsieur et de madame tout le monde. J'ai été élu maire de ma petite commune, c'est sûr, mais ça ne fait pas pour autant quelqu'un qui fait de la politique. Et on ne commence pas à faire une carrière politique à 64 ans.
Alors, comme vous le mettez en avant, pas de velléité de pouvoir, mais il y a bien quelque chose qui vous a motivé à poser votre candidature.
Tout à fait. Alors, déjà, le premier point, c'est que, comme je vous disais, je suis encarté depuis le 27 janvier. Et en fait, c'est parce que je partageais la totalité de la pensée de François Asselineau. Je ne peux pas dire autre chose. Et je me suis dit que peut-être il fallait l'aider, d'une façon ou d'une autre. Mais j'étais très modeste. Je ne voyais pas comment je pouvais vraiment l'aider sur le terrain, parce que j'étais très prise par ma fonction de maire. Mais voilà, on en restait là. Et puis, bon, le fait que nous ne soyons pas trop nombreux non plus à se précipiter vers la candidature a fait que, par cooptation, on va dire, c'est un peu ça, entre la délégation de Drôme-Ardèche qui m'a sollicité, j'ai dit, ben bon sang, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et donc, c'est ainsi que la chose s'est faite. Mais vous dire que j'avais dans l'esprit, au moment où je me suis inscrite à l'UPR, d'avoir une candidature à la députation, absolument pas.
Alors, si, comme vous le dites, vos idées collent tout à fait à celles de M. Asselineau et que ça fait partie du processus qui vous a amené à prendre votre carte à l'UPR, puis à vous présenter sous cette étiquette-là, ça veut dire que vous avez une confiance importante en le pouvoir des urnes, j'imagine.
Mais oui, dans la mesure où les Français, les Drômois en particulier de la circonscription dans laquelle je suis candidate, ont la conscience des événements qui se produisent et qui vont se produire et qui sont la conséquence de l'élection de M. Macron, par exemple. Hein. Je ne suis pas certaine que cette majorité des Français ait bien conscience déjà de ce qu'est l'Europe, d'une part, de ce qu'elle oblige, parce qu'il y a un traité de fonctionnement de l'Union européenne à laquelle personne ne peut déroger, aucun pays, dont la France, et que cela impose un assujettissement complet de la politique gouvernementale qui sera mise en place à Bruxelles.
Ça, c'est pas une nouveauté.
C'est pas une nouveauté du tout, mais c'est important de le savoir parce que un député est là pour défendre la population dont il a la charge. Nous sommes d'accord. Mais s'il fait des promesses et que ces promesses ne peuvent pas être tenues parce que il y a les obligations avant tout de respecter les commissions de Bruxelles qui viennent imposer par le GOPE, ce qu'on appelle le GOPE, c'est-à-dire les grandes orientations de politique économique qui sont imposées à tous les pays, dont la France, je le répète, vous pouvez faire toutes les promesses que vous voulez, ça n'aboutira pas. Parce que la priorité est donnée à l'Europe. C'est d'une évidence, j'allais dire, qu'on ne peut pas éviter.
Alors c'est la même question que je pose du coup à tous les partis, on va dire ça, c'est le mot à la mode, mais eurosceptiques. Si j'entends bien l'idée de sortir de l'Europe quand on parle d'élections présidentielles, là où je suis moi-même plus interrogative, c'est quand il s'agit des législatives. Une circonscription ne sort pas de l'Europe toute seule. Qu'est-ce que vous proposez concrètement qui puisse servir à la démocratie, puisque c'est ça que vous remettez en question à cause de cette appartenance à l'Europe?
Tout à fait. Donc, si vous voulez, pour moi, un député est déjà là pour... On va reprendre, si vous le voulez bien, le rôle du député. Le rôle du député, c'est de défendre les idées, les idéaux et les besoins des gens dont il a la charge. Il n'est pas là pour... véritablement convaincre les gens de ces propositions qui peuvent très bien être alléchantes pour le public, mais j'allais dire, il faut être objectif. S'il est élu, ça veut dire que quelque part, il est représentatif des besoins et des nécessités de sa circonscription. Si quelque part vient contredire ces propositions, une appartenance, en l'occurrence à l'Europe, vous savez comme moi que depuis 1992, nous appliquons une politique qui n'est pas la politique voulue par l'ensemble des Français. C'est clair. Qu'il y ait différentes tendances, mais cela, tout le monde le sait, j'allais dire, même déjà entre voisins, même si on s'entend bien, les convictions politiques sont complètement différentes, mais les besoins ont tendance à être les mêmes. Les idéaux, quelque part, ou les idées, plus exactement, les idées pour le mieux vivre ensemble, pour le bien-être, etc., sont quasi communes. Et ça n'est pas une couleur politique, rose, verte ou bleue, qui changera quelque chose. Donc, écouter d'abord en priorité les besoins de la circonscription, c'est, j'allais dire, imparable. On n'est pas là prioritairement pour faire croire que des vessies sont des lanternes. Et ce que je reproche actuellement à la plupart des députés qui ont été en place, mais ça c'est quasiment une vieille tradition, c'est qu'on a modelé l'esprit des Français à se dire finalement on attend du député qu'il nous fasse des propositions et puis suivant ces propositions on vote oui, on vote non, on vote pour lui ou on vote pas pour lui. Mais en fin de compte, j'allais dire, si vous défendez une certaine position, vous allez défendre... Bon, moi, en ce qui me concerne, je vais défendre, bien évidemment, la sortie de l'Europe, la sortie de l'euro, puisque c'est inévitable. On ne peut pas faire une sortie de l'euro sans faire une sortie de l'Europe. On va essayer de faire comprendre à la majorité des Français que rester dans l'Europe, c'est comme s'ils se mettaient un carcan. Voilà. Et donc, à partir de là, faire en sorte d'être entendu à l'Assemblée, pour essayer de moduler cette constante, cette chape de béton qui pèse aussi bien sur le président de la République actuel, qui vient d'être nommé, que sur le gouvernement futur qui sera en place.
Alors, M. Macron, c'est quand même un soutien évident des institutions européennes. Il n'est pas sous une chape en ce qui le concerne, il s'en sert.
Oui, tout à fait. Quand je dis sous une chape, c'est-à-dire... Comprenez-moi bien, si j'ai fait cette image, c'est tout simplement parce que c'est quand même un poids. Tant mieux pour lui qu'il prenne ça comme avec légèreté, on va dire, hein, comme si c'était une plume. Mais pour beaucoup, ça représente une chape qui impose des choses. Et il va y avoir inévitablement des conflits d'intérêt, tout simplement, entre les membres de son gouvernement qu'il sera appelé à nommer ou à laisser en place, puisque actuellement on peut dire que c'est un gouvernement entre guillemets provisoire, en attente des législatives, hein, mais il peut très bien, ça peut très bien s'avérer inutile, hein, s'il a une majorité pour lui. Quel intérêt d'avoir à changer son gouvernement qui est en train de mettre en place plein de choses rapidement pour les 100 premiers jours de sa présidence, par exemple.
Hein ? Alors, autre question de l'ordre de la possibilité. Quand on voit comment est faite la constitution de la Ve République et la possibilité d'utiliser le 49-3, forcément, le travail des députés, il est rendu un petit peu difficile. Qu'est-ce que vous proposez
Le 49-3, je vais vous dire, on a reproché à M. Valls d'avoir utilisé le 49-3. Que je sache, si ma mémoire ne me fait pas défaut, il y a quelqu'un qui l'a utilisé, j'allais dire, de façon colossale, ça a été M. Rocard. M. Rocard a dû l'utiliser, je ne dirais pas une dizaine de fois, mais certainement pas loin.
Un an de plus, c'est beaucoup plus.
Beaucoup
je crois.
Plus. Ouais. Alors vous voyez, vous savez ça mieux que moi. Mais je m'en souviens très bien. Donc, à cette époque-là, personne ne trouvait à redire. C'était, on entendait certains syndicalistes, bien évidemment, qui ruaient un peu dans les brancards, si vous me permettez l'expression. Mais il n'y avait pas cette vindicte qui a eu lieu à l'époque de M. Valls. Mais parce que nous ne sommes plus à la même époque.
Ça contredit quand même tout le travail des députés. Et du coup,
complètement. Voilà. Complètement. Alors, je sais où vous voulez certainement en venir. On passe du 49-3 à... le vote par ordonnance. Hein ? Oui. C'est quelque part, je pense que quelque part, vous faites un petit peu ce, non pas ce rapprochement, mais cette dichotomie. Bon, c'est exact que à partir du moment où vous évincez le débat en assemblée, vous enlevez une part de la fonction, qui est primordiale en fait, des députés. C'est-à-dire d'être là pour objecter quand ça leur paraît nécessaire, ou de déposer des motions de censure si une loi est en train d'essayer de passer. Hein. Si on vote par le 49-3, c'est simple, on coupe carrément tout le circuit de discussion. Si on vote par ordonnance, c'est encore différent. Le vote par ordonnance, c'est non pas évincer l'Assemblée, mais c'est faire un débat préliminaire, alors que quand une loi est présenté devant l'Assemblée, on en débat jusqu'à temps que certains députés, justement, posent des motions de censure. Quand elles ne sont pas trop nombreuses, ça devient cohérent, sinon ça devient complètement incohérent et ça tombe dans les oubliettes, on l'a déjà vu. Mais le vote par ordonnance, si vous voulez, et c'est encore différent. Il y a une discussion préliminaire en Assemblée, et je crois me souvenir que les deux chambres, comme on dit, pèsent sur les discussions préliminaires, mais qu'en toute fin, c'est quand même le gouvernement qui prend la décision. Alors, on n'est plus à l'époque non plus des ordonnances de Louis XVI, de Louis XIV ou de Louis XV. Hein, c'est plus du tout la même chose. Mais il n'empêche que c'est vrai, ça restreint les possibilités de débat, tout simplement, entre députés.
Et dans ce cas-là, il reste quoi aux gens ?
Ben, il reste, j'allais dire, y a deux possibilités. Ou bien il y a un groupe, prenons l'exemple de l'UPR, puisque j'appartiens à l'UPR, un groupe suffisamment fort de l'UPR qui est solide et se fait entendre et essaie d'imposer une révision de ses ordonnances ou d'éviter qu'on prolonge cette gouvernance avec des votes par ordonnance, ou bien, il n'y a pas 36 solutions, les gens se révoltent et finissent par dire ben non, parce que nous on n'est pas d'accord sur ça ou ça, et ça finit dans la rue.
C'est pas quelque chose qui semble être prôné par l'UPR, ça, prendre la rue.
Non, pas du tout. Ça, j'allais dire, en quelque part, c'est aux antipodes même de l'UPR. C'est un parti qui est extrêmement intelligent. C'est un parti qui fait appel à l'intelligence des gens. C'est ça qui est remarquable. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi aussi je me suis encarté à l'UPR. Parce qu'on ne prend pas le commun des mortels pour un béotien, pour un ignare, pour un illettré. Et on l'instruit des choses dont on parle. Et François Asselineau a très, très bien fait la chose. Peut-être un peu trop au regard de certains autres candidats, c'est possible, mais moi, je ne lui reprocherai pas. Parce que j'ai toujours pratiqué de cette façon. J'ai été amené à une époque de ma vie professionnelle à m'exprimer comme je le fais avec vous et devant des gens qui avaient des tendances politiques complètement différentes, mais ça n'était pas dans un but politique, c'était dans un but social. Bon, il est très difficile, vous savez, quand on doit défendre une idée, surtout dans le social, de les faire passer. Parce que d'abord, ça n'est pas rentable, le social. Hein. Donc, si on a affaire à des gens qui savent ce dont on parle, il n'y a aucun problème, mais vous avez des gens qui sont là comme de simples auditeurs et qui n'ont jamais entendu des termes très spécifiques ou qui n'ont jamais fait, dans le cas des écoutes des conférences de François Asselineau, pour revenir à lui, qui n'ont jamais eu autant d'informations politiques, mais au sens le plus noble du terme. C'est ça qui est important. C'est, j'allais dire... Je pense ne pas être dans l'outrance en disant que François Asselineau a redonné des titres de noblesse, je pèse mes mots, à la politique. Le mot politique a tellement été galvaudé par les uns, par les autres, peu importe les partis. J'allais dire, il y a des velléités de pouvoir partout. Vous savez comme moi que le pouvoir et l'argent, c'est ce qui mène le monde actuellement. Il n'y a plus, j'allais dire, de conscience collective véritablement. Moi, c'est ce que je remarque. Or, François Asselineau a été le premier à redonner ce sens du collectif, ce sens de défendre la nation. La nation, c'est le peuple qui fait la nation. C'est pas être nationaliste, comme beaucoup le pensent, et être de droite, voire d'extrême droite, ce dont j'ai été accusé il y a quelque temps par un média. C'est complètement ridicule. Comme disait De Gaulle disait « Nous ne sommes pas des nationalistes, nous sommes des nationaux ». C'est-à-dire qu'en fin de compte, le groupement des uns et des autres forme la nation, l'État-nation.
Mais je remarque que j'ai déjà du coup procédé à une interview de Bernadette Thomas pour parler de l'UPR au sens plus global du parti et de ses idées, qu'on prononce le mot indépendance de la nation, mais qu'on prononce jamais le mot souveraineté. Est-ce que c'est un mot que vous voulez pas utiliser?
Non. Moi, je pense tout simplement, c'est parce qu'on évite, enfin, on évite, en ce qui me concerne, j'évite rien du tout, le mot souverain parce qu'il a été galvaudé. C'est-à-dire que, vous savez comme moi, qu'à partir du moment où on met iste ou isme derrière quelque chose, on diminue, j'allais dire, sa valeur intrinsèque et sa sémantique. Bon, on va être simple.
C'est parce que la souveraineté et le souverainisme, c'est pas pareil.
Ah,
c'est
ben pour voilà. Ça. Oui. Voilà. Or, l'article 5 de la Constitution, hein, dont nous dépendons depuis 1958, l'article 5 dit bien que le président de la République est le garant de la souveraineté nationale. J'invente rien, c'est écrit. Bon. Maintenant, est-ce qu'effectivement nous sommes souverains, c'est-à-dire maîtres chez nous, comme on dit communément? Absolument pas. Absolument pas. Que vous soyez nommé président avec une tendance de gauche, de droite ou de ce que vous voulez, vous ne représentez, je vais être un peu dans les termes communément employés aujourd'hui, vous êtes un pantin qui est à la solde de l'Europe. Elle-même, quand je dis l'Europe, c'est-à-dire à la solde de Bruxelles pour ce qui est du TFUE et puis à la solde de la BCE pour ce qui est de la finance.
Qu'est-ce qui vous distingue des autres partis eurosceptiques?
Ah ben, une chose quand même qui est importante, c'est que...
Je ne parle pas que du Front National, hein, parce que je pense avoir saisi ce qui vous en distingue.
Non,
mais...
non, je pense que c'est le côté tranquille. Je dirais presque cette force tranquille qui a animé François Asselineau depuis le départ, hein, et cette conscience entre l'humanité, l'universalisme que l'on peut avoir et le mondialisme qui transparaît au travers de l'appartenance à l'Europe actuellement. C'est ça qui nous diffère. C'est-à-dire que beaucoup ont dit, quand je dis beaucoup, c'est-à-dire les autres partis ont beaucoup parlé, sans les nommer, hein, ont beaucoup parlé de la sortie de l'Europe, mais c'était, j'allais dire, un peu dilué dans mais au travers un référendum, alors que François Fillon, je ne veux pas refaire une politique, j'allais dire pré-présidentielle, hein, ça n'est pas l'intérêt de notre discussion, mais au moins c'était clair, c'était net, il n'y avait pas de sujet d'embrouillamini cérébral, hein, on savait où on allait. C'était la sortie de l'Europe, de l'euro et de l'OTAN. Bien. Là, maintenant, au niveau d'un député, si vous voulez, on ne peut pas répéter ce qui a été prôné pendant les élections présidentielles. Mais ce que l'on peut faire, c'est adoucir, essayer d'adoucir cette espèce de conformisme à l'Europe qui est prôné par le président de la République et par son gouvernement. C'est pas, j'allais dire, être contre systématique pour le plaisir d'être contre, parce qu'on a une étiquette UPR ou une étiquette X ou Y qui est contre. Non, c'est tout simplement voir clairement les choses, avoir du réalisme, de l'intelligence des choses qui se présentent et agir avec pragmatisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire n'importe quoi au peuple en lui faisant croire que des vessies sont des lanternes. Ça a trop duré, ça. Et personnellement, je vais vous dire, je ne suis pas mécontente que la droite et la gauche se soit explosé en plein vol.
Comme vous le disiez tout à l'heure, le rôle du député, il a effectivement davantage un rôle local.
Ah,
et du
fait.
Coup, on n'est pas là pour refaire le débat des présidentielles. Vous parliez de la mission du député, c'est-à-dire de répondre aux besoins des habitants qu'il représente. Selon vous, quels seraient les besoins des habitants de cette troisième circonscription qui est quand même très étendu,
c'est ce que j'allais vous dire. Les besoins de Saint-Jean-Royan, pour prendre un exemple, ne sont pas les mêmes que ceux qui sont dans des villages proches du Vaucluse. C'est évident. D'abord, c'est pas la même géographie, d'une part. C'est pas le même climat, d'autre part. Donc, sur le plan économique, vous n'avez pas du tout les mêmes tendances. Prenons l'exemple de l'agriculture. Vous n'avez pas du tout les mêmes types d'agriculture au nord qu'au sud, et à l'est et à l'ouest. Moi-même, de ce petit village d'où je suis, nous sommes limitrophes des Hautes-Alpes. Donc nous avons un climat beaucoup plus continental que ne serait-ce que les habitants de Die, par exemple. Vous êtes dans une vallée, hein. Dans cette vallée, vous allez avoir des zones limoneuses de cultures possibles, qui ne seront pas possibles, dans le Haut-Diois, dont je suis. Et pas plus dans le sud de cette troisième circonscription. Donc il faut faire attention justement à écouter les uns et les autres. Et si vous me demandiez tout à l'heure ce que j'entendais par être député, ben c'est justement avoir le pouvoir de se déplacer. Il y a une chose qui manque énormément aujourd'hui, mais qui est remplacée par soi-disant les communautés de communes, et ça on pourra en parler longtemps, les cantons qui existaient et qui sont laissés de côté maintenant. Ces cantons avaient lieu d'être, parce qu'ils regroupaient autour d'eux, c'est pas pour rien qu'on les appelait les chefs-lieux de canton, ils regroupaient autour d'eux une dizaine, une quinzaine de petites communes qui se retrouvaient, à discuter entre elles par des réunions où elles étaient conviées. Et là, on avait véritablement conscience des besoins, de la nécessité des uns et des autres. Et c'est ça que je voudrais remettre en œuvre. C'est-à-dire avoir la possibilité d'aller régulièrement dans les anciens chefs-lieux de canton, de regrouper les maires des petites communes et de leur demander, vous, à votre niveau, là, quel est le point principal que vous aimeriez qu'on traite ? Faire ça régulièrement ? Alors, j'allais dire, quelque part, je me voyais avec une possibilité de faire ça tous les 15 jours, de réserver une journée complète de présence sur un secteur donné. Donc, ça fait pas mal d'anciens chefs-lieux de canton. Mais c'est une chose possible. Et à partir de cette concertation que j'aurais pu faire, eh bien, voir s'il y a une sortie d'une priorité qui est commune à l'ensemble de la circonscription, ou s'il y a une dichotomie tellement forte entre le nord, par exemple, et le sud, que ce soit au niveau de l'agriculture, et je pense qu'il y a des nécessités qui sont totalement différentes du nord au sud et de l'est à l'ouest de la circonscription. Et c'est pour ça, je vous dis, il faut être et sur le terrain, et je dirais même prioritairement sur le terrain. Prioritairement sur le terrain, à l'écoute des gens. C'est eux que vous devez épauler. C'est pas à vous de donner un programme. C'est aux gens qui vous élisent de donner les manettes. Mais les manettes avec, j'allais dire, où se diriger. Et après, quand vous avez conscience des besoins, c'est vous qui épaulez, c'est votre rôle à l'Assemblée de poser même du poing sur la table en disant voilà. Voilà ce que demande ma troisième circonscription et je ne peux pas passer outre parce que leur confiance, ils me l'ont donnée pour que je les défende. C'est ça le but premier d'un député. Après, d'ailleurs c'est si peu vrai qu'en fin de compte, les étiquettes politiques ont très peu d'importance. Mais personnellement, si je dois avoir une déontologie, ma déontologie, elle est en ligne droite de celle d'Asselineau. C'est clair. D'ailleurs, on ne s'encarte pas à 64 ans, alors qu'on ne s'est jamais encarté nulle part, en étant dans l'à peu près avec la personne à qui l'on donne sa voix. C'est évident. Hein. Donc il fallait que j'ai une majorité de consensuelle avec Asselineau. Bon, ce n'est même pas une majorité, c'est la totalité de sa pensée qui est conforme à la mienne, ou du moins la mienne est conforme à la sienne, comme vous voulez. Mais voilà. Donc ma priorité, c'est l'écoute des besoins des uns et des autres en fonction de l'endroit du territoire où ils se trouvent. Voilà, c'est ça. Et à partir de là, eh ben, j'allais dire, c'est la loyauté, l'honnêteté, la probité, éviter d'entendre les sirènes qui hurlent autour de vous pour vous solliciter pour tel ou tel type de négociation, qui ne rentre pas forcément d'ailleurs dans le cadre déontologique d'un député. Et ça, c'est important. Et ça, là-dessus, je suis ferme et catégorique. Je n'écoute jamais les sirènes. Je suis un peu comme Ulysse attaché au mât. Je pense que, vous savez, la priorité pour moi est donnée à l'écoute du peuple. Redonner la démocratie au peuple. L'écouter. Sinon, vous pouvez faire tous les votes que vous voulez. Que ce soit l'échelon régional, que ce soit au niveau de la députation, que ce soit ce que vous voulez. Ça ne représentera rien. Et vous ne représenterez rien aux yeux du peuple. C'est le peuple qui est maître. Et d'abord, notre Constitution et la République française, déjà, définit la chose. Nous sommes dans une démocratie, il faut garder, enfin, qui s'amenuise de plus en plus, mais il faut garder ce principe démocratique et aller jusqu'au bout des possibilités que nous offre cette démocratie. Et la maintenir, mais pour le peuple et avec le peuple.
Merci beaucoup, Brigitte Rousselet, candidate UPR à la 3e circonscription de la Drôme pour les élections législatives de 2017.
Merci à vous.
Vous pouvez retrouver toutes nos autres interviews, notamment au sujet des législatives, sur notre site internet, le www.rdwa.fr. Merci d'être à notre écoute.
Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
L'interview du jour.